Bonjour à tous, ici Aurélie pour RDWA à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. C'est un immense honneur dans d'histoire et de contes aujourd'hui que j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Marina Chenet qui nous a préalablement déjà offert quelques contes et qui vient de nouveau nous offrir deux de ses derniers contes. Donc déjà, bonjour Marina.
Bonjour.
Alors, on discutera un petit peu de ton cursus littéraire hein, de cette année 2013 qui te met un petit peu en avant quand même, on peut le dire, et qui met en exergue bien sûr ton talent duquel tu peux faire preuve lors de tes écrits ou en tout cas de tes élucubrations scriptorales. Toujours est-il, c'est un plaisir aujourd'hui de t'accueillir dans les studios d'RDWA. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, si tu veux bien.
Ben, aujourd'hui, je vais vous présenter mes deux derniers contes. Donc le premier s'appelle « Le samouraï et le rossignol » que j'avais écrit pour deux amis qui sont fans du Japon. Donc du coup j'avais fait un conte pour eux. Et le deuxième c'est « Le loup des cauchemars » que j'ai écrit en fait à l'aide aussi un petit peu de Gwen qui est aussi à la radio ici.
Donc Gwen hein, qui anime aujourd'hui Arrête ton cinéma entre autres et qui est un fervent apôtre de la libre antenne du mardi soir aussi. On peut le saluer au passage effectivement puisque lui-même est passé dans d'histoires et de contes et qui nous offre régulièrement de ses écrits.
Voilà, on avait peut-être l'idée d'écrire un livre aussi un petit peu tous les deux sur une même idée et du coup c'est vrai que par rapport à l'un des contes qu'il m'avait envoyé, et ben, j'avais un peu capturé l'idée de son loup. Et donc par rapport à son idée à lui, puis par rapport aussi à une amie, j'avais fait ce conte-là aussi pour contrecarrer son idée de cauchemar avec la création plutôt du rêve de mon côté. Enfin, voilà.
Donc en tout cas, effectivement, Marina, toi tu t'appuies sur tes relations amicales hein, pour écrire tes contes.
Oui.
C'est là où tu puises toute ta ressource, entre autres.
Oui, c'est ça.
Mais écoute, c'est quand tu veux pour donc le samouraï et le rossignol.
D'accord. Donc. Le samouraï et le rossignol. Il était une fois, à la pointe sud du Japon, vivait un samouraï d'une grande bravoure et d'une fidélité sans faille à son seigneur, Shoshangun. Il se nommait Ichigo. Sa mission était de préserver les cerisiers enchantés des convoiteurs. Ces arbres centenaires avaient chacun une âme et un pouvoir mystérieux. Depuis des années déjà, Ichigo parcourait ses terres à cheval. De l'aube au soleil couchant, ils circulaient entre les arbres déployant leurs fleurs roses et délicates. Rien n'était égal que leur parfum et leur beauté. Ils s'enivraient de leurs odeurs subtiles et enchanteresses sans pouvoir s'en lasser. Quelques minutes avant que la nuit ne tombe, il s'asseyait au sommet de la colline. Son Shangun s'installait à ses côtés, méditait avec lui, sous le soleil embrasé de l'astre qui disparaissait derrière les montagnes. Ils restèrent tous deux silencieux, jusqu'à ce que la nuit prenne place et que la lune, dans toute sa splendeur, les éclaire tendrement. Ichigo, commença le maître sans quitter la lune du regard, voici combien de temps que tu me sers. 15 ans, monseigneur. Vous m'avez accueilli à l'âge de mes 10 ans. As-tu déjà eu à te plaindre de moi? Non, monseigneur. Serais-tu prêt à donner ta vie et à prendre celle des autres si je te le demandais? Oui, monseigneur. « Tu es comme un fils pour moi, » continua-t-il, « comme un fils que je n'ai jamais eu. Tu vois ces cerisiers? On dit qu'ils sont magiques. Depuis qu'ils existent, les hommes se sont toujours battus pour se les approprier et utiliser leur pouvoir. As-tu déjà remarqué le moindre pouvoir en eux? Ils fleurissent toute l'année, et jamais je n'ai vu une seule fleur faner, » répondit le samouraï. « Des fois, lorsque je m'assois parmi eux en silence, il me semble les entendre chanter avec le vent. » Le maître acquiesça d'un mouvement de tête et tenta d'écouter la mélodie dont il parlait sans l'entendre. « Avec ma femme, nous n'arrivons pas à avoir d'enfants, » lui confia-t-il pour la première fois. « En lisant des parchemins, j'ai appris que l'un de ces arbres, si l'on buvait la rosée qui perlait à ses feuilles, pouvait guérir une femme ou un homme de ce problème. Seulement, un autre donnerait la mort. » ou un autre encore pourrait rendre fou ou immortel. Il n'y a aucun moyen de savoir quel cerisier offrirait telle vertu ou telle malédiction. Mais terre accueille une centaine de ces arbres et très peu apporte une bénédiction. Est-ce que c'est pour ça que votre sorcière vient tous les jours recueillir la sève de quelques cerisiers ? Demanda Ichigo. Elle cherche celui qui pourrait vous aider ? Oui, répondit le maître. Elle n'a de réponse que pour trois d'entre eux. Trois malédictions, dont je garde le secret. J'ai reçu un message du shogun voisin. Demain, au soleil couchant, il enverra son meilleur samouraï te défier pour mes terres. Un combat à mort, que par honneur je ne peux refuser. Es-tu prêt une fois de plus à te battre pour moi jusqu'à la mort ? Oui, mon seigneur, et je remporterai le duel. Sur mon honneur, je vous jure que je vous rapporterai sa tête. Sans un mot de plus, le shogun se releva pour retourner à sa demeure, laissa à Ichigo le soin de se reposer et de se préparer au combat du lendemain. Le samouraï s'entraîna toute la matinée et médita au milieu des cerisiers l'après-midi, les oreilles aux aguets. Il écoutait la douce mélodie des arbres qui l'enveloppaient et l'apaisaient. Il ne vit pas le temps passer et fut sorti de sa transe par le pas délicat d'un autre samouraï, tout en armure, ne laissant pas voir son visage. Sans aucune parole, il se releva et le salua. L'ennemi fait de même et sortit son katana dans le bruit froid et particulier d'une lame sortant de son fourreau. Ichigo à son tour l'imita et le duel commença. Jamais de sa vie ne combattit un guerrier avec autant d'habileté et de grâce. Le duel s'était transformé en danse où l'un tournoyait autour de l'autre, les lames claquant l'une sur l'autre, se mêlant au chant des cerisiers qui s'était intensifié. Bientôt, le soleil disparut, laissant place à la pleine lune sans qu'aucun des deux ne se fatigue. Ils combattirent toute la nuit, sans un mot, le regard plongé dans les yeux de l'adversaire, cherchant une faille, une faiblesse inexistante. L'aube se leva, et un vent chargé de fleurs de cerisier surprit l'inconnu qui tomba au sol. Le coup a dit couvert. Ichigo en profita et abattit sa lame. « Non !» Il freina son geste au dernier moment, ébahi par le ton et la fragilité de la voix qui sortait de l'armure. Il fit glisser sa lame plaquée contre son cou, sous le casque et le retira. Une cascade de cheveux bruns coula le long de ses épaules. Stupéfait, il lui demanda de se retourner. Hésitant, le samouraï se dévoila et lui montra son visage, celui d'une magnifique femme. Sous le choc, il lâcha son katana et resta muet face à cette guerrière agenouillée au sol, attendant la sentence. Des fleurs de cerisier s'étaient mêlées à ses cheveux noirs. Comment une femme si belle et au visage si doux pouvait se battre ainsi ? « Comment t'appelles-tu ? » « Utako, » répondit-elle. « Mon père est le shogun voisin, et nous avons besoin des bienfaits de l'un de vos cerisiers pour guérir ma sœur, qui est gravement malade. Mon maître ne vous laissera jamais toucher à une feuille de ces arbres, » articula-t-il, troublé malgré lui par le délicat son de sa voix. « Alors tuez-moi tout de suite. » Elle découvrit sa nuque, afin qu'il puisse y donner un coup fatal. Mais pour la première fois de sa vie, il ne put se résoudre à ôter la vie d'un rival. Il s'agenouilla en face d'elle et l'aida à se relever. Des fleurs délicates vola entre eux, en même temps que leurs regards se croisèrent. Lui donner la mort était maintenant impossible, car il sentait à cet instant qu'il voudrait lui offrir la sienne pour l'éternité. Ils discutèrent longuement de leurs shogun respectifs, et de leur fidélité envers eux. Pour avoir l'honneur sauf, l'un des deux devait mourir. Mais ils se refusaient à cette éventualité. Ainsi, ils se promirent l'un à l'autre en secret sous un cerisier qui se mit à frémir de toutes ses feuilles lorsqu'enfin ils échangèrent un baiser et s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Des pointes de lames contre leur gorge les réveillèrent brutalement. Le shogun de Ichigo et ses gardes les encerclaient. Il ne prêta même pas un regard à son samouraï. Avec un air grave, il fit signe de les mener au cachot. Ichigo et Itako furent emprisonnés le temps du jugement. Le samouraï risquait l'exil et le déshonneur. Quant à son aimé, c'était la mort qui l'attendait. À la fin de la journée, les gardes devaient venir lui arracher pour son exécution. C'est sur un épais tapis de paille qu'ils attendirent l'instant fatal. Ils s'inventèrent une vie imaginaire, où il serait libre de tout devoir, libre de s'aimer, sans que cela soit un péché. Puis un bruit derrière la porte les ramena à la réalité. Utako se releva, droite et fière, prête à la sentence. Mais ce fut la vieille sorcière qui entra, en mitouflée de vieux draps usés. Elle referma rapidement la porte derrière elle, afin de ne pas se faire remarquer. Intrigués, les amoureux l'interrogèrent du regard. « Je suis venue vous sauver, mademoiselle. Si vous mourrez ici, la guerre est assurée. » Elle lui tendit une fiole. « Buvez ça et fuyez. Quant à vous, Ichigo, vous allez être banni de ces terres pendant un moment. Je vous déconseille fortement de ne pas revenir de sitôt si vous voulez survivre. Prenez ça pour parler à votre amie une fois qu'elle aura tout bu. » Elle lui glissa un ocarina dans la main, sculpté dans du bois de cerisier. « Qu'est-ce que c'est ?» se méfia la jeune guerrière. Le bruit des gardes se rapprochant, elle finit tout de même par boire sans attendre de réponse et dans un éclair de lumière, se transforma en rossignol. C'est à ce moment-là que les gardes entrèrent avec fracas et aperçurent l'oiseau s'envoler. « Traîtresse ! » lancèrent-ils en plantant leur lame dans le cœur de la vieille dame qui s'écroula. Ichigo se lança contre eux pour leur voler un katana et s'enfuit de la prison en courant. Il fut si rapide et si agile que personne ne put le rattraper. Et, à la fin de la nuit, il avait quitté les terres de son maître. Épuisé, il s'endormit contre un arbre. Il ouvrit les yeux sous le chant merveilleux d'un petit oiseau. Il la reconnut tout de suite. Même sous cette forme, il sentait ce lien invisible qui les unissait. Il leva les mains pour que le rossignol s'y pose et se mette à chanter. À son tour, le samouraï prit son ocarina et joua pour l'accompagner dans son chant. À travers cette musique commune, ils se parlèrent et se comprenaient comme avant. Ils se mirent d'accord pour se mettre ensemble à la recherche d'un remède afin qu'elle reprenne forme humaine. Mais dans l'immédiat, il était impossible de retourner vers les cerisiers où les gardes étaient bien trop nombreux. Ils voyagèrent à travers tout le Japon en quête de réponses, cherchant des sorcières, des médecins talentueux, mais aucun ne put leur apporter de réponse. Comme sous la forme d'un rossignol, Utako ne comprenait plus le japonais, Ichigo jouit toute la journée de l'ocarina pour le lui traduire. Il regrettait de ne plus pouvoir la serrer dans ses bras, par peur de briser cet être si délicat. Se sentir si proche et si loin à la fois les attristait profondément. Alors, pour oublier cette distance, elle chantait, il jouait, et dans cette fusion enchanteresse, il ne faisait qu'un. Des années plus tard, alors que leur nom se faisait oublier, le samouraï et le rossignol retournèrent vers la terre des cerisiers. Rien n'avait changé, et ils furent accueillis par un vent chargé de pétales de fleurs. Au pied d'un arbre, la vieille sorcière récoltait encore de la sève sur le tronc d'un de ces arbres mystérieux. Ichigo, heureux de voir qu'elle avait survécu, alla à sa rencontre. « Ces cerisiers, confia-t-elle, c'est moi qui les ai plantés. Et j'en suis la seule véritable gardienne. J'ai bu la rosée du tout premier. Il me donna l'immortalité. Mais une personne ne peut recevoir dans sa vie qu'une bénédiction ou malédiction. Ainsi, à jamais Utako restera un rossignol. Si vous pouvez communiquer avec elle par cet instrument, c'est parce qu'il est fait de la même souche que celui qui l'a envoûté. Vous voulez dire que jamais nous ne pourrions être réunis, séparés à jamais par nos différences ? Il ravala sa salive avec amertume et chagrin, tout en serrant son ocarina de toute sa force. Puis un éclair traversa son esprit. Il existait une solution. Dans la détermination de son regard, la vieille dame comprit. Laissant échapper un sourire, elle se dirigea vers l'arbre voisin récolter un peu de rosée. C'est ainsi qu'à son tour il devint un rossignol. Faute de pouvoir lui rendre forme humaine, il préféra devenir aussi libre et fragile qu'elle, afin qu'ensemble, ils puissent enfin vivre l'amour qui les liait depuis si longtemps.
C'est une belle histoire d'amour que tu nous offres là, et pour une fois, ce n'est pas l'humain qui gagne, en fait, hein, finalement. c'est l'amour, tout simplement. Donc, peu importe la forme que l'on revêtit pour s'aimer, bien voilà, nous avons un exemple là de cet amour qui, quoi qu'il arrive, durera. Tu peux nous en parler un petit peu ?
Eh ben oui, ben, celui-là, c'est vraiment l'exemple type que c'est vraiment créé pour les amis, pour une occasion spéciale. C'est que ces deux amis aiment beaucoup les mangas, le Japon. Et en fait, c'est un couple qui sont vraiment amoureux depuis très longtemps. Elle est chanteuse et il est musicien. Et pour son anniversaire, en fait, on s'était cotisé pour lui acheter un ocarina. Alors du coup, par rapport à ce cadeau qu'on lui a fait et ce qu'ils aimaient tous les deux, du coup, j'ai fait ce compte pour lui offrir en même temps que l'ocarina.
Merci. Alors, moi, j'ai eu des frissons qui m'ont traversé. Alors, je ne sais pas si les auditeurs pourront en dire autant, mais vraiment très, très belle histoire. Merci, Marina.
Avec plaisir.
Je te laisse poursuivre à ta guise.
Le loup des cauchemars. Cette histoire prend naissance au temps où nous n'avions pas encore de télévision, où la seule électricité que nous pouvions apercevoir était celle des éclairs que l'on croyait venir des dieux. Une époque que l'on nomme aujourd'hui l'âge de pierre. Un moment sombre pour nous, où se nourrir et vivre était notre lutte quotidienne. La nuit n'était hantée que de cauchemars, alimentés par les hurlements des loups. Corail était une jeune fille innocente et rêveuse. Elle parlait de choses que personne ne comprenait. Elle disait voir, lorsqu'elle dormait, de formidables histoires et des animaux fantastiques. Elle disait qu'il existait un autre monde, par-delà le jour, lorsque les yeux se fermaient. Un monde où les gens allaient bien, où ils pouvaient faire tomber des étoiles et embrasser le soleil. Un monde où les hommes et les bêtes pouvaient vivre en temps ensemble sans s'entretuer. Un monde où personne n'avait faim, où l'on pouvait guérir de tout. Les mères la regardaient avec méfiance et l'éloignaient du clan. Elle craignait qu'elle ne les contamine avec ses drôles de pensées. Avec la dureté du monde, il fallait survivre et être forte, non pas perdre son temps à des niaiseries inutiles. Les fléaux du moment étaient la faim, la soif, la maladie et les bêtes sauvages. Il n'y avait pas de place pour la joie et encore moins pour l'espoir. Ce jour-là était un jour plus sombre encore que les autres, car les femmes du village attendaient le retour de leurs hommes qui ne rentraient pas. Ils étaient partis chasser depuis 2 semaines déjà, mais elles n'avaient plus de nouvelles. La faim se faisait sentir plus que jamais, et cette fois s'ajoutaient l'inquiétude, l'angoisse et la peur. Ce jour-là, ils finirent par revenir, mutilés, amaigris, le regard vide. Ils étaient moitié moins nombreux qu'à leur départ et semblaient perdus et éteints. Les femmes se précipitèrent à leur rencontre pour les accueillir. Ils tombèrent dans leurs bras épuisés, à bout de force, ne pouvant plus parler. Que leur était-il arrivé pour qu'ils deviennent ainsi ? Les femmes les avaient installés sur des peaux de bêtes près d'un feu et leur donnaient à boire. Mais même dans leur sommeil, ils pleurèrent et crièrent des paroles incompréhensibles durant toute la nuit. Corail resta à côté de son père, Topaz, toute la nuit en lui tenant la main. Elle écouta ses cris et lui caressa les cheveux tout en murmurant des histoires. Quand il hurlait « J'ai peur de la nuit !» elle inventait quelques phrases sur la beauté de l'aurore qui l'a remplacée. Et quand il se mit à crier « Les loups !» elle lui raconta comment, en les apprivoisant dans ses rêves, ils étaient devenus des chiens qui désormais les protégeaient et jouaient. Petit à petit, son père sembla s'apaiser et sa fièvre baissa au fil des heures. Au petit matin, il ouvrit les yeux sous le sourire rassuré de sa fille. Il tendit sa main vers son visage et la remercia du fond du cœur. De tous ceux qui étaient revenus la veille, il était le seul à avoir repris ses esprits. Il en donna le mérite à Corail, qui, par ses histoires, avait chassé les cauchemars de son esprit. C'est ainsi que toute la journée, elle se mit à conter des histoires, assise, au milieu d'une dizaine de malades, mais aussi des enfants et des femmes du clan qui commençaient à prendre plaisir à l'entendre. Des histoires où intervenaient des dieux, mais des dieux protecteurs qui allait les sauver de l'enfer quotidien dans lequel ils vivaient tous. Ces histoires se terminaient toujours bien, laissant mourir sa voix sur une note d'espoir que personne ne connaissait. Car ici, il y avait rarement de bonnes nouvelles pour laisser place à ce genre de sentiments. Quelques jours plus tard, tous les hommes étaient réveillés et, en réunissant leurs souvenirs, purent parler de ce qui leur était arrivé. Ils avaient rencontré un loup. Un loup gigantesque et si noir que la lumière semblait être aspirée par son pelage ténébreux. Il leur était apparu lorsqu'ils partaient chasser. Il avait dévoré la moitié d'entre eux et avait laissé la vie sauve aux autres. Mais il avait dissimulé dans leur esprit sa trace, son empreinte, sa tourmente et sa folie, espérant qu'il les propage à travers toute l'espèce humaine. Ils décrivirent ce loup avec tant de détails terrifiants que les enfants se mirent à pleurer dans les bras de leur mère. Ses yeux rouges, injectés de sang, promettaient de plonger les plus téméraires dans la folie. De ses crocs serrés, il pouvait ôter la vie des hommes les plus vaillants. De ses grosses pattes griffues, écraser les plus jeunes. Lorsque celui-ci hurlait, il engloutissait tout bonheur, tout espoir. Et si jamais lui venait l'idée d'affronter le jour, il serait capable de rendre la nuit éternelle. La lune était sa lumière, le sommeil des autres, le royaume dans lequel il était roi. Il leur avait promis qu'il s'infiltrerait dans les méandres des esprits endormis pour les détruire. Cette nuit-là, personne ne put fermer l'œil. Serrés les uns contre les autres, ils écoutaient le souffle du vent froid traverser les huttes dans un bruit angoissant. Cora y voulut à nouveau raconter des histoires, mais les hommes du clan la stoppèrent. Si elle ne les avait pas sortis de leur cauchemar, la peur ne se serait pas propagée à tout le clan. Et elle n'était rien face à ce loup, juste une fillette, frêle et rêveuse. Topaz prit sa fille à l'écart et lui déclara que lui croyait en elle. En l'écoutant, toute la nuit durant son combat contre les cauchemars, il avait senti de la force en elle et un imaginaire sans limite, un espoir et un rêve plus grand que la noirceur de ce loup. Il le serra contre elle et reprit confiance. Tous deux s'endormirent, confiants, et se réveillèrent sans problème. Au lever du soleil, de grandes empreintes de loup marquaient les bords du village. La peur en eux se mirent à grandir. Si bien que la nuit suivante encore, personne ne put dormir. Puis, au milieu des ténèbres, un hurlement qui déchira la nuit. Une longue note plaintive d'un loup solitaire les fit sombrer dans le sommeil. Sauf Corail et Topaz, qui étrangement n'avaient pas peur de lui. Ils le virent s'approcher d'eux. Énorme, les yeux rouges, comme l'avaient rapporté les chasseurs, et, autour de lui, une brume épaisse de mauvais rêves qu'il répandit sur les dormeurs, tout en chantant une longue mélodie. Elle comprit le sens de sa complainte et commença à chanter par-dessus, d'une voix claire et chaleureuse. La sonorité innocente et sensible de la jeune fille, se mêlant à celle du loup, créa la première berceuse. Elle calma les enfants qui commencèrent à se détendre. À chaque image et histoire sombre du loup, elle y ajoutait de la couleur et des notes d'espoir. Il envoyait un cauchemar d'un amant mort, elle en fit un ange protecteur. Il mit un voile de nuit épaisse, elle y fit tomber une pluie d'étoiles filantes. Il voulut noyer les esprits dans des torrents d'eau glacée, elle fit intervenir des sirènes pour les sauver et les envelopper d'amour. Dans le froid meurtrier d'un hiver glacial, elle y ajouta une aurore boréale et un feu réconfortant dans un igloo. Chaque cauchemar de cette nuit-là devint des rêves enchanteurs, tellement beaux, tellement envoûtants, que le loup lui-même fut charmé et se laissa aller à la douceur de ses moments de bonheur. Son cœur s'adoucit malgré lui, et ses yeux devinrent ambrés et doux. À la fin de la nuit, la bête lui fit un clin d'œil et disparut avec l'aurore. À son tour, la fillette s'effaça, petit à petit, sous le regard de son père, jusqu'à disparaître totalement. Au réveil, tous eurent un sentiment inconnu, l'impression que la journée allait bien se passer, une note d'espoir et de bonne humeur qu'ils n'avaient jamais ressentie jusqu'à présent. Mais personne à part Topaz ne se souvenait de Corail. Rien de plus qu'une impression de songe. Qui était-elle? De qui parlait-il? Mais qui cherchait-il? Il fut inconsolable toute la journée, jusqu'à la venue de la nuit, où durant son sommeil il la retrouva, aux côtés du loup se disputant les rêves des autres. Le loup créait des cauchemars qu'elle s'amusait à transformer en rêves. Tous deux riaient et couraient de cauchemar en rêve avec entrain. Il comprit qu'il ne la reverrait jamais dans son monde à lui. Ils avaient créé le leur. Leur monde à eux, où enfin sa fille pouvait apporter l'espoir et la joie à tous. Même à celui qui, au départ, ne pensait pas pouvoir y croire un instant. Le loup, le créateur des cauchemars, avait lui-même trouvé un peu de bonheur. Depuis, Topaz devint lui-même conteur, afin de préparer les villageois aux doux rêves avant de s'endormir. Il devint avec ses confrères créateur d'histoires, porteur de la mémoire de Corail et du loup, à jamais à présent, dans nos esprits et nos rêves.
Mais c'est psychologique tout ça.
Très. Et là, c'est. Enfin, j'ai eu du mal à pas rire. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est l'âge de Pierre. Et influencé par eux, j'ai mis que des prénoms de Pierre. Corail et Topaz.
Effectivement. Mais... T'es un petit peu dans les minéraux, hein, sur ce coup-là.
Mais bon, en fait, en même temps, le corail, c'est une pierre qui protège des cauchemars. Voilà. Et Topaz, c'est la pierre. Du guide. Enfin, voilà.
Eh bien, on est complètement dedans. Alors, tu nous disais hein, tout à l'heure que tu avais écrit ce conte après avoir lu une histoire ou un conte que Gwen Augereau, donc d'Arrête ton cinéma, t'avait présenté. Donc, alors, explique-nous un petit peu cette descente vers tes écrits à toi, ce glissement.
Eh bien, en fait, dans le texte qu'il m'avait envoyé, et ben, je retrouvais un petit peu, comme dans ces écritures, ce que je fais un petit peu dans mes contes aussi, c'est-à-dire la source de chaque chose. Parce qu'il m'avait envoyé un texte de son histoire, où le cauchemar venait de tel animal, la destinée d'un autre. Et c'est vrai que chaque notion de la nature, des choses, de tout ce qui se passe dans la vie, avait une origine animale. Voilà. Donc les cauchemars, ce qui était sombre, c'était le loup. Et c'est vrai que pareil, hein, dans mes contes, le vent d'où il vient, pourquoi les points d'arbre ont-ils des taches, c'est toutes des réponses. Enfin voilà, du coup, je retrouve un peu cette démarche. Et son histoire de loup, ça tout de suite m'a fait tilt. Et comme on avait en plus le projet d'écrire un livre ensemble, bah, j'avais commencé par ça. Après, je pense qu'on verra un petit peu, mais le problème, c'est qu'on est un peu loin.
Géographiquement, ouais.
Voilà, donc c'est un peu compliqué de se rencontrer pour écrire, mais je pense que ça va pouvoir se faire parce que, mine de rien, on aime beaucoup écrire, lire.
Et... Oui, et puis vous avez deux univers, effectivement, moi, pour vous connaître respectivement l'un et l'autre, vous avez deux univers qui se complètent. Mmh. Et bah, pour le coup, Gwen serait peut-être le loup et toi, l'enchanteresse. Mais dis-moi Marina, ben voilà, donc on sait que tu es encore en formation et d'ailleurs voilà chers auditeurs, je vous invite à aller réécouter les deux numéros d'histoire et de contes où Marina nous offre au moins 5 contes, hein, me semble-t-il.
Ouais.
Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le troisième numéro et depuis la dernière session d'enregistrement, tu as fait un petit peu de chemin. Donc tu es en formation aujourd'hui formation service à la personne, je sais plus exactement.
AMP.
Aide médico-psychologique, voilà. Et tu te tentes à des concours. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton cursus 2013 qui est pas moindre, hein, je pense.
Oh, ben, en fait, je me suis inscrite à un site internet, c'est shortedition.com. Et donc, c'est un recueil de nouvelles qui est soumis au vote un petit peu des internautes. Et les gagnants, en fait, après, sont publiés. Donc, celui qui avait été sélectionné, c'était Le Coq et le Soleil, qui allait en finale. Mais bon, j'ai pas gagné, donc j'ai pas été édité, mais... Mine de rien, quand même, ils ont été publiés en format numérique par Internet. Donc, tout le monde peut les lire, tout le monde peut y aller et tout. Et ils ont... Donc, du coup, je ne peux pas tenter pour l'instant d'autres éditeurs pendant un an et demi. Je suis
c'est
enchaînée.
C'est pas vrai. tu as signé une clause d'exclusivité, c'est ça?
C'était obligé. Je regrette un petit peu. Quand même. Bon, je me dis, au moins, tout le monde peut les lire parce que Voilà, de toute façon, ils sont protégés par le copyright, donc personne ne peut me les voler. Ils sont accessibles à tout le monde. Comme mon but, ce n'est pas vraiment de gagner de l'argent, c'est de faire rêver un petit peu. Donc, voilà.
Bon, quelque part, tu t'y retrouves, mais n'empêche que ça te gèle un petit peu dans ta motivation hein, d'aller de l'avant en ce qui concerne le conte et tes écrits, notamment, tout
voilà,
simplement.
C'est ça.
Donc, tu es tenue mariée pendant encore combien de temps? Alors, encore une petite année, c'est ça?
Là, oui, parce qu'au mois de juin, à partir du mois de juin, c'était un an et demi, donc jusqu'en décembre 2014, je suis mariée. Ça y est, je suis contre le mariage, c'est décidé.
Mariée à ton insu. Non, mais n'empêche que tu avais toutes les clés à l'époque, tu aurais pu dire non. Mais toujours est-il que tes comptes sont donc disponibles hein, sur le site shortedition.com, si je ne m'abuse.
Oui.
Vous avez deux émissions aussi, chers auditeurs, où vous pouvez réécouter les cinq comptes, dont celui qui est diffusé sur Short Edition, qui est Le Coq.
Que le soleil. Mais ils y sont presque tous, hein, de toute façon, sur Short Edition. Mais ils n'ont pas été sélectionnés pour la finale.
D'accord.
Voilà.
Okay. Bon, en tout cas, moi, j'espère que c'est de bon augure pour toi. Alors, t'es quand même arrivé en finale. Et bien, on espère que dans quelques temps, ce sera toi celle qui mérite ce premier prix que nous, auditeurs RDYens, nous t'attribuons.
Merci.
De fait, quelques actualités peut-être Marina a annoncé quant à ta vie de conteuse et d'auteur.
Pas pour l'instant, non. Ça n'a pas trop bougé. J'écris plus trop parce que là, je suis vraiment dans ma formation. J'essaie vraiment de me remettre. Je suis dans la dernière ligne droite. Alors, les comptes sont un peu mis de côté. Voilà. Bientôt, je pense que je vais en écrire un autre parce que j'en ai deux autres là qui me trottent dans la tête. Mais il faut attendre une prochaine nuit blanche que ça va me venir. Hein. Comme d'habitude, un jour, je ne vais pas dormir et puis ta-ta-ta-ta-ta, je vais écrire. Et le lendemain, j'irai au boulot avec des grosses cernes.
Mais un compte en poche.
Voilà, un compte en poche. Voilà, parce qu'à chaque fois, je les écris dans la même nuit. Hein, ça change pas.
Donc c'est d'une traite. Hein.
D'une traite. Le rossignol, là, le samouraï le rossignol. Deux nuits blanches, celui-là, parce qu'il est long. Mais oui, pendant deux nuits, là, j'ai vraiment peu dormi. Et... Voilà.
Ben moi, ce que j'ai envie de te dire, Marina, vivement la prochaine nuit blanche. Hein. Et puis, en tout cas, tu sais que tu es la bienvenue ici à RDY, dans d'histoire et de contes. Et pas que. Voilà, ben, n'hésite pas à venir nous offrir ce que tu sais si bien faire. Et puis, avec ton sourire aussi. Quand même, on doit le dire, aujourd'hui, il fait un petit peu gris quand on regarde par la fenêtre. Et pourtant, il y a le soleil dans les studios d'RDY. Donc, merci, Marina.
Merci.
On peut peut-être quand même signaler à nos éditeurs ta page Facebook.
Oui, si vous voulez.
Donc Marina Déchaînée pour le coup.
Ouais, oui, oui.
Donc qui s'écrit D-E-C-H-E-Y-N-E-T.
En fait, c'est ça. Parce que en fait, mon nom de famille c'est Chaînée, mais je suis un peu déchaînée sur les bords aussi. Donc.
Et oui. Et d'ailleurs, je vois un super t-shirt. Hein. Alors là, ça doit être tes amis qui te l'ont offert. Marina, le feu sacré. Alors, c'est l'image d'un personnage qui souffle sur des mains en feu ou des mains de magicien, je sais pas bien.
En fait, c'est mon personnage préféré d'une bande dessinée. C'est l'Enfeuse de Troie. C'est Troll de Troie. Et elle, c'est Wa'a. C'est une humaine qui se prend pour un troll. Voilà. Et du coup, en fait, c'est un peu des deuxièmes parents pour moi qui m'ont fait ce t-shirt. Ils me l'ont envoyé avant-hier. J'étais vraiment très touchée. Et donc, voilà, ils m'ont fait une petite surprise. Alors, je me dis, tiens, je vais le porter.
Bah, je trouve que ça va bien, Marina, de point le feu sacré. Bah, c'est peut-être comme ça que je vais appeler ce nouveau numéro d'Histoire et des Contes. Puis n'hésite pas, Marina, t'es la bienvenue et au plaisir dans un futur numéro.
Merci beaucoup.
Chers auditeurs, je vous informe que ce numéro est désormais disponible en podcast sur le site www.rdwa.fr dans la rubrique Histoire et Contes et plus précisément d'Histoire et de Contes où vous retrouverez les numéros consacrés à Marina, mais pas que, d'autres encore à venir et déjà passés. Moi, je vous dis au plaisir d'une future émission autour du conte et de l'imaginaire et à bientôt sur les ondes d'RDY.
Avec plaisir.
Qu'est-ce que t'as, t'es trop nerveux? Laisse-moi dormir. Je le sens que tu trembles, que tu transpires. Qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que tu veux? Parle pas de malheur. Tu vois pas que je rêve. Quelle heure? Qu'est-ce que t'as, t'es trop sérieux? Ça me fait pas rire. Il est temps que je parte, que je me retire. Laisse-moi te fuir un peu, tu me fais peur. Laisse-moi fermer les yeux sur tes malheurs. Je veux pas y croire à ton histoire. Je veux pas y croire, je veux pas le savoir. Je veux pas y croire à ton histoire. Je veux pas y croire à ton cauchemar. Laisse-moi passer de l'autre côté. Laisse-moi tomber. Fatigué. Qu'est-ce que t'as, t'es trop nerveux. Laisse-moi dormir. Je le sens que tu troubles, que tu transpires. Tu le sais, je suis fragile. Toi t'es trop dur. Laisse-moi sous ma pile de couverture. Laisse-moi dans le noir la nuit entière. Je ne veux plus voir, éteins la lumière. Je veux pas y croire à ton histoire. Je veux pas y croire, je veux pas le savoir. Je veux pas y croire à ton histoire. Je veux pas y croire à ton cauchemar. Laisse-moi passer de l'autre côté. Laisse-moi tomber. Je suis fatiguée.